Bonjour à tous, Jean-Roger Villon à ce micro, il est 9h en temps universel, bonjour et bienvenue. Bagdad s'est réveillé aujourd'hui sous le choc d'un sanglant attentat sur un marché populaire revendiqué par le groupe État islamique. Aucun bilan officiel n'a été encore donné, mais le nombre de victimes s'établit à au moins 36 morts et une soixantaine de blessés. Dans un communiqué ce mardi, le Premier ministre Mustapha Al-Kazimi a promis que le terrorisme ne resterait pas impuni et que les auteurs seraient poursuivis ou qu'ils se cachent. L'attentat intervient alors que M. Kazimi est attendu à Washington en fin de semaine pour rencontrer le président américain Joe Biden et dans un contexte politique déliquescent à quelques mois des élections législatives prévues en Irak au mois d'octobre. Afghanistan, 3 roquettes, dont 2 seulement ont explosé, sont tombées ce mardi matin, non loin du palais présidentiel à Kaboul, où de nombreux responsables étaient réunis autour du président afghan Ashraf Ghani à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha, la fête musulmane du sacrifice, a annoncé le ministère irakien de l'Intérieur. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mawis Stanikzai, a indiqué dans un message envoyé à la presse qu'aucune victime n'avait été enregistrée dans l'immédiat. L'attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête sur l'espionnage de journalistes français, dont l'infiltration de téléphones par le logiciel israélien Pegasus pour le compte de l'État marocain, qui le conteste, a été révélé dimanche par un consortium de médias. Cette enquête a été ouverte pour une longue liste de 10 infractions, dont atteinte à la vie privée, interception de correspondance, accès frauduleux à un système informatique et association de malfaiteurs. Elle fait suite à la plainte déposée par le site Mediapart, dont 2 journalistes ont été espionnés, à laquelle doit s'ajouter une plainte similaire du Canard enchaîné. La Chine a fustigé aujourd'hui des accusations montées de toutes pièces des États-Unis et de leurs alliés qui accusent Pékin de mener des cyberattaques à grande échelle et d'être derrière un récent piratage de Microsoft. Il s'agit d'une campagne de dénigrement et de pression entièrement motivée par des raisons politiques, a dénoncé lors d'une conférence de presse Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Un nouveau gouvernement est attendu aujourd'hui en Haïti avec à sa tête le Premier ministre Ariel Henry qui avait été nommé par le président Jovenel Moïse juste avant son assassinat selon un responsable de l'exécutif à Haïti. Sur le continent, en RDC, des médecins ont décidé lundi de durcir leur mouvement de grève en réduisant sensiblement pendant 7 jours le nombre d'hôpitaux devant recevoir uniquement des cas d'urgence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans leurs revendications, des syndicats des blouses blanches ont invité le gouvernement congolais à verser des salaires à plusieurs centaines de médecins régulièrement engagés, mais qui travaillent sans être payés depuis plusieurs années, à accorder des promotions en grade pour d'autres et l'admission de nouveaux médecins. Cette grève intervient alors que la RDC fait face à une préoccupante 3e vague de la pandémie de COVID-19 qui a totalisé 46 356 cas avec 1018 décès enregistrés en RDC selon les chiffres contenus dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé daté d'hier lundi. Les candidats des 2 principaux partis à Sao Tomé et Principe vont s'affronter dans un deuxième tour après avoir ravi les 2 premières places de la présidentielle de dimanche. Carlos Villanueva, candidat du principal parti de l'opposition, l'Action indépendante démocratique, est arrivé en tête avec 39,47% des suffrages. Il va donc affronter au deuxième tour le 8 août Guilherme Posser da Costa du parti pilier de la coalition gouvernementale, arrivé en deuxième position avec 20,75% des voix. Le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma va reprendre le 10 août prochain, a annoncé aujourd'hui le tribunal de Pietermaritzburg dans l'est de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, lors d'une courte audience en ligne, le procès avait repris lundi, mais les avocats de M. Zuma avaient plaidé que la virtualité des audiences privait leurs clients des droits constitutionnels, notamment